Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission préférée santé, bien-être, du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il est à mes côtés pour prendre soin de vous, pour vous rassurer s'il le faut sur les sujets qui vous inquiètent, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à notre dos, au mal du dos, le mal du siècle comme disent certains. Une émission en partenariat avec le Figaro Santé et nous allons tout reprendre. D'abord, pourquoi avons-nous vraiment mal au dos en 2021. Nous vous donnerons évidemment aussi de nombreux conseils pour combattre ces douleurs, comment bien bouger pour ne plus en avoir plein le dos. On fera un point sur les médicaments, lesquels utiliser à bon escient. Et on parlera aussi sciatique, hernie discale, entre autres. Une émission très complète, vous allez voir, avec à nos côtés Aline Richard, rédactrice en chef du Figaro Santé, et le professeur François Ranoux. Il est rhumatologue et chef de service à l'hôpital Cochin à Paris. Ensuite, dans notre chronique du vendredi, bien chez soi, on va aller regarder aujourd'hui quels soins vous apportez à votre literie. D'ailleurs, à quel rythme, par exemple, lavez-vous vos draps? Vous intéressez-vous, par exemple, à l'hygiène de votre matelas? Nous ferons le point avec le docteur Jimmy Mohamed. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de l'amour, de la sexualité, comment la réinvestir peu à peu après la perte de l'être cher.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
À présent, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par cette question de Catherine, une question concernant une de nos émissions précédentes sur la chrononutrition.
Bonjour, le médecin qui intervient vient de dire qu'il fallait abandonner toute consommation de laitage après l'âge de 24 mois. Et là, il nous dit de manger des centaines de grammes de fromage tous les matins. D'autre part, comment faire ce fameux petit déjeuner pour les personnes qui n'aiment pas ou ne supporte pas le fromage. Là, la seule option, c'est pain fromage. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors, pour vous répondre, Catherine, nous avons rappelé le docteur de la Bosse qui était justement notre invité il y a quelques jours. Il est donc l'un des créateurs de la chrononutrition. Il vous apporte quelques précisions. Écoutez.
Catherine a tout simplement oublié ou n'a pas entendu, parce que je parlais assez vite, le dernier bout de la phrase, c'est-à-dire on doit cesser de manger à partir de l'âge de 24 mois tous les laitages contenant du lactose et des facteurs de croissance. En revanche, le fromage, la crème et le beurre qui n'en contiennent pas peuvent très bien se manger toute la vie. On peut remplacer 100 grammes de fromage par au moins 3 œufs, voire même 4. Et on peut remplacer le fromage et les œufs par de la charcuterie à condition d'en manger le double du poids de fromage. Et malgré cette précaution de poids supérieur, on aura peut-être la sensation d'avoir faim beaucoup plus vite. Pour savoir si votre déjeuner transformé est aussi efficace au point de vue de l'appétit et de la satiété, eh bien, vous ne devez pas avoir faim moins de 5 heures après ce petit déjeuner modifié.
Voilà, c'était le docteur Delabo au micro de Barbara Silvera Sonigo. Jimmy, on va prendre une deuxième question pour vous. Elle nous a été envoyée par Mathilde via Twitter. Elle habite à Paris. Elle nous demande la chose suivante. J'ai entendu le docteur Mohamed dire qu'il fallait se méfier des taux de THC des nouveaux cannabis. Mais je n'ai pas bien compris au fond quels étaient les risques concrets aujourd'hui par rapport aux joints finalement qu'ont peut-être fumé nos parents. Pourriez-vous me préciser les choses? Jimmy, d'abord un peu d'histoire peut-être. On va parler des risques du cannabis version 2021 dans un instant. Mais des risques, il y en a depuis longtemps avec le cannabis, et même ça a mis en danger Napoléon, je crois.
Exactement, le cannabis existe depuis quasiment la nuit des temps, on a même retrouvé des petites graines de cannabis aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ pour des rituels, et ça a fait aussi des ravages dans l'armée napoléonienne en 1800. Les soldats de Napoléon ont découvert le haschich, et du coup, ils avaient forcément envie de moins se battre. Et forcément, Napoléon a dû interdire ce cannabis, c'est la première loi anti-drogue, elle nous vient de Napoléon.
Alors le problème avec ce cannabis d'aujourd'hui, enfin et de toujours, hein, mais aujourd'hui particulièrement, c'est une substance qui pose problème qui s'appelle le THC. D'abord, c'est quoi le THC?
Alors, le THC, c'est la substance qui va être responsable des effets psychogènes. Et le THC, il faut bien comprendre qu'il y a des récepteurs dans le cerveau. Et lorsque vous fumez, eh bien, il va activer un circuit qui est normalement éteint, c'est celui de la récompense. C'est pour ça que quand vous fumez un joint, bah, tout d'un coup, vous êtes un peu euphorique, un peu détendu, vous riez un peu pour rien. Sauf que vous allez me dire, c'est bien d'avoir le circuit de la récompense, on va être content. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à force de fumer du cannabis, ces récepteurs dans le cerveau vont être de moins en moins sensibles. Et vous allez avoir besoin d'une plus grande quantité de cannabis pour arriver aux mêmes effets d'euphorie. C'est la tolérance. Et cette tolérance, elle va être responsable d'une plus grande consommation et donc forcément de plus de problèmes.
Et alors, ce qui inquiète particulièrement, là aujourd'hui, en 2021, les autorités et même les médecins, c'est que cette concentration en THC, elle a grimpé dans les cannabis d'aujourd'hui.
Hein. Exactement. On était aux alentours de 6% de THC dans les années 2000 pour arriver à quasiment 30% en 2019. Et ce qui inquiète les autorités sanitaires, c'est que certains trafiquants ont mis au point des molécules de synthèse de cannabis qui vont donner l'équivalent d'un cannabis puissance 100. Alors vous allez me dire, c'est génial, on va planer. Sauf que forcément,
bon,
vous allez avoir...
Dire ça, non, moi,
mais,
perso, ça,
mais les jeunes se disent ça. Je sais bien, vous êtes une journaliste rigoureuse.
C'est
mais
ça.
Mine de rien, imaginez ce qu'il va se passer sur le circuit de la récompense et sur la motivation. La première des conséquences chez le jeune adolescent qui a des circuits électriques, neuronaux qui sont en cours de construction, et bien, qu'il va avoir une baisse de la motivation. Ils vont moins travailler. Et puis n'oubliez pas que le cannabis, vous le savez, ceux qui vont fumer vont avoir les yeux un peu injectés de sang puisque ça va entraîner une vasodilatation au niveau des yeux. Mais au niveau du cerveau, ça peut entraîner une vasoconstriction et donc vous donner un accident vasculaire cérébral. Fumer du cannabis vous expose à l'AVC, mais pas que, ça expose aussi à l'infertilité.
Ah oui.
Le cannabis, il y a des récepteurs dans les testicules, et donc si vous fumez, c'est pas bon pour votre reproduction.
On va peut-être retenir cet argument-là pour nos jeunes, hein. C'est pas mal celui-là, on l'aura jamais sorti. On va le garder. Merci beaucoup Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Et bien sûr, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier du jour avec une émission en partenariat avec le Figaro Santé. On va tout vous dire sur le mal de dos, pourquoi c'est devenu le mal du siècle. Et surtout, on va vous donner des tas de conseils, faire le point sur les traitements qui fonctionnent vraiment pour en finir avec ces douleurs. C'est dans quelques minutes et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite nos deux invités pour ce dossier du jour en partenariat avec le Figaro Santé. On va commencer par vous Aline Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé. Vous avez donc ordonné ce tout dernier numéro du magazine Santé du Figaro qui vient de paraître et qui nous promet d'en finir avec le mal de dos. Alors Aline, il faut savoir cependant que même si on dit que c'est le mal du siècle, en fait les dos humains, ils souffrent depuis très 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 longtemps.
Oui, c'est le mal des siècles, le mal des lustres, si vous voulez. C'est peut-être, et c'est certainement dû à notre statut de bipède. Ramsès II, donc, c'est pas une histoire récente. Hein, Ramsès II, c'est 1200 ans à peu près avant JC, souffrait, semble-t-il, d'un rhumatisme inflammatoire au niveau de ses vertèbres, comme l'ont révélé des clichés, des radios qui ont été faites de sa momie.
D'accord, donc on en a plein le dos depuis très très longtemps. Alors notre deuxième invité, c'est vous, professeur François Ranoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rhumatologue et chef du service de médecine physique et réadaptation à l'hôpital Cochin à Paris. Alors on dit mal de dos, mal du siècle, mais j'imagine, on va un petit peu remettre tout ça dans le contexte, hein, que la pandémie, le télétravail, la sédentarité, ça n'a pas dû arranger les choses ces derniers temps.
Ça clairement. Après, il faut être bien conscient, c'est que la lombalgie, c'est un terme tellement fourre-tout.
Ouais, c'est vrai.
Il y a des vrais lombalgiques qui ont des maladies de la colonne vertébrale. Okay. Qu'elle soit inflammatoire, infectieuse, mais aussi dégénérative. Et puis après, il y a tout ce qui est lombalgie, on va dire bien-être.
J'ai mal au dos.
J'ai un peu mal au dos en ce moment,
va,
mais on est plus dans le symptôme.
Ouais.
Et c'est là d'ailleurs où parfois on a du mal à se parler entre professionnels, même avec le patient, où on ne se comprend pas. C'est qu'il y a à la fois le symptôme et la maladie, et parfois on a tendance à tout mélanger. Et à ce moment-là, on fait n'importe quoi.
Alors, on le sait, la sédentarité, c'est l'ennemi de notre dos. Mais est-ce que dans l'autre sens, l'assurance maladie sort un nouveau slogan, le bon traitement, c'est le mouvement. Est-ce qu'on a des preuves que ça fonctionne réellement?
Le premier qui s'est intéressé à ça, c'était un médecin militaire américain dans les années 80 et qui s'est occupé des militaires qui avaient mal au dos. Et donc, il leur faisait, il se reposait pendant un mois sur
des planches en bois.
Des planches en bois, il ne fallait rien faire. Il s'est dit, mais, non seulement ça ne marchait pas, mais il trouvait que ça empirait. Donc, il a pris l'opposé, il s'est dit, tiens, on va faire le contraire. On va au contraire les réactiver et on ne va plus s'intéresser à la douleur, mais à la fonction, comme biomarqueur. Et en faisant ça, il s'est aperçu qu'il améliorait les gens. Il ne les améliorait pas tellement sur la douleur, paradoxalement, mais sur la fonction, et en fait, ils allaient mieux. Il faut être très prudent. Lombalgie, ça veut dire, c'est que douleur, on n'a que douleur, douleur. Oui, oui. Alors, c'est un des symptômes, et c'est le majeur. Mais il y a tout le reste. Il y a la fonction, la qualité de vie.
Professeur Ranoux, alors, dans ce fourre-tout du mal de dos, combien de Français, on estime, est-ce qu'on a une idée d'ailleurs de combien de Français ça concerne finalement? Parce que, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on consulte peut-être plus qu'avant pour ça? Avant, bon, on avait mal au dos à l'ancien temps, on va dire.
Alors,
nos grands-parents, ils restaient à travailler,
oui,
avec du mal de dos. Quoi.
Alors, cette idée-là, finalement, on revient beaucoup dessus parce que dans l'Lancet, tous les 3 ans, vous avez l'état de santé de la population mondiale qui est évalué. Et ils font un classement de la maladie la plus handicapante jusqu'à la dernière. Mmh. Il y en a 200 et quelques. La première, c'est la lombalgie. Depuis que l'étude existe, depuis 90. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, on a souvent dans la tête, on dit « Oh, la lombalgie, c'est un peu c'est une maladie de pays riches, de gens gâtés, etc. » C'est pas vrai, en fait. Et moi, le premier, hein, il y a 20 ans, je vous aurais pas dit ça. J'aurais dit « C'est une maladie plutôt, justement, des pays très développés parce qu'ils ont le temps de s'occuper de leur dos. » Et en fait, bah non, c'est pas vrai. C'est le même problème dans tous les pays. Ça encore, je dirais, c'est des fausses croyances sur le mal de dos.
Aline, dans le Figaro Santé, comme toujours, il y a de nombreux conseils. On va en balayer quelques-uns. Déjà, est-ce qu'au niveau de l'alimentation, il y aurait certains aliments qui pourraient peut-être nous aider au niveau de notre dos, même si ça paraît un peu tiré par les cheveux?
Alors, je vais être très déceptif, comme on dit aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'aliment miracle.
Il n'y a pas un aliment
miracle
qui va nous faire du bien. Quoi.
Ah, je suis désolée.
Sans douter un peu.
Non, mais même
mais
pas
manger
de curcuma.
Léger et pas être trop gros.
En revanche, il y a un conseil de bon sens qui est valable pour le mal de dos comme pour pas mal d'autres choses. C'est que si vous mangez varié et équilibré et que vous avez, ma foi, par rapport à votre âge et à votre constitution physique, un poids raisonnable, et ben ça c'est parfait, c'est très bon pour votre dos, parce que qu'est-ce qui se passe à l'inverse, quand on a des kilos en trop, ben, si vous voulez, c'est tout le monde le comprend, ça pèse sur les articulations, ben, c'est comme si vous avez un sac à dos, le dos, vous portez du poids.
Professeur Ranou, on est très stressé, depuis cette année encore plus peut-être, mais on est dans une société où le stress est partout, est-ce que ça peut provoquer, déclencher des maux de dos?
Non, c'est un facteur aggravant. C'est pas la même chose.
D'accord.
C'est pas un facteur déclenchant.
C'est parce qu'on est tout le temps tendu qu'on va se déclencher des lombalgies.
Non. Définitivement non. Par contre, c'est un facteur aggravant. On peut l'appeler aggravant, confondant, comorbidité. On peut l'appeler comme on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui ont un fond plutôt de stress ou de dépression, hein, d'ailleurs, on teste les gens pour ça quand ils ont mal au dos. Bah, s'ils ont mal au dos, ils vont moins bien gérer les choses. Alors souvent, ils le prennent mal quand on leur dit ça. Ils me disent « Ah oui, alors vous me dites qu'en fait, je suis dépressif. » Je leur dis non, c'est une réaction de votre organisme. Il se trouve qu'elle n'est pas adaptée, mais 90% des gens font la même chose, ont une évolution plutôt dépressive face à la douleur chronique.
Pour terminer sur cette partie, professeur Ranou, est-ce que du côté de la kinésithérapie, de l'ostéopathie, hein, c'est un peu la mode, est-ce qu'on a des données solides qui prouvent que ça pourrait aider certains patients?
Alors la kinésithérapie, c'est clair, hein.
c'est vraiment
le pilier du traitement à partir du moment où elle est active. Je crois que si on veut deux mots simples pour le traitement non pharmacologique, c'est la rééducation, la kinésithérapie, l'activité physique, on va dire d'un côté, active. C'est-à-dire que le lombalgique qui attend, comme ça, comme un Bouddha, attendre qu'il y ait quelque chose de magique et d'incantatoire qui va faire que... Alors non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça aggrave les gens. Ça les entretient dans une espèce de... dans des peurs et dans des croyances qui sont erronées. Et donc aujourd'hui, il est clair que le pilier du traitement, c'est clair que c'est la rééducation.
Et en deux mots, l'ostéopathie, vous avez des données très récentes sur le sujet.
On a des données très récentes, ça c'est clair.
Notre équipe à Cochin.
Qu'est-ce qu'on montre? On montre que, en tout cas, les manipulations ostéopathiques, quand on les compare à un placebo de manipulation, ne montrent pas d'effet cliniquement pertinent.
Alors on jette ça à la poubelle,
non? Mais tout le monde le sait, ça, depuis toujours. On sait que... Alors qu'il y a plein de gens qui vont vous dire, mais moi, quand je vais chez l'ostéopathe, moi, je suis hyper content.
Donc, vous en concluez quoi? On peut continuer à y aller ou pas?
Je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que ceux qui vont voir l'ostéopathe, ils n'ont pas une lombalgie maladie en général, ils ont plutôt une lombalgie symptôme, d'accord? Et qui disparaît en 24 à 48 heures. OK? Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a tout un décorum. C'est que l'ostéopathe, il va prendre son temps, il va entendre, il va écouter le patient. Il va lui dire dans l'oreille des choses qu'il a envie d'entendre. Et ça, c'est un pulse positif pour le patient. Mais on n'est pas dans de la médecine.
Aline,
c'est
vous voulez rajouter quelque chose
rapidement?
Oui,
exactement ça. C'est-à-dire qu'on sait bien que l'effet placebo dans sa noblesse fonctionne. Et pourquoi ne pas s'en servir?
Bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer à vous éclairer aujourd'hui sur le mal de dos, ses causes et ses traitements. Bien sûr, vous allez voir notamment que le numérique sera peut-être l'avenir des dos douloureux. On y revient très vite. A tout de suite sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau pour cette émission en partenariat avec le Figaro Santé, vous d'abord Aline Richard, vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé spécial mal de dos. Et puis en plateau également avec nous le professeur François Ranoux, vous êtes rhumatologue et chef de service à l'hôpital Cochin à Paris. Alors Aline Richard, vous dites dans l'édito en ouverture du Figaro Santé, vous posez la question en tout cas, on est en train de passer dans l'ère du mal de dos 2.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà des outils qui sont à la disposition de ceux qui souffrent, c'est ça?
Alors oui, il y a des outils numériques et ça peut nous permettre de nous occuper de notre dos au quotidien, des sortes de petits rappels, si vous voulez. Et c'est très utile, par exemple, pour l'activité physique.
Professeur Ranoux, à Cochin, il y a aussi des médecins et des chercheurs qui viennent de lancer le projet. Alors, je le dis peut-être pas très bien, BAC4P ou BAC4P, je ne sais pas si on dit en français ou en anglais. De quoi s'agit-il?
Alors, c'est notre équipe qui fait ça avec l'équipe également de Philippe Raveau, d'Isabelle Boutron, donc, et également une équipe, c'est Paris Sud, où là, c'est vraiment des ingénieurs, c'est les rois du big data, justement, de l'intelligence artificielle. Ce projet, en fait, c'est de recueillir et d'observer, en fait, des patients qui ont mal au dos, de les observer dans la vraie vie, au cours du temps. Ils s'inscrivent sur un site internet, c'est Compare, c'est O-M-P-A-R-E, vous savez, c'est la communauté
allez-y,
de patients.
Allez-y, hein, d'ailleurs, si vous avez mal au dos depuis plus de 3 mois, vous pouvez
vous inscrire.
Vous
vous inscrivez sur Compare, C-O-M-P-A-R-E, c'est la communauté de patients pour aider la recherche. Okay. Ils s'inscrivent et on va les suivre pendant plusieurs années et on va leur extraire des informations, on va les interroger. Il n'y a rien de biologique, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Hein. C'est uniquement du déclaratif pour essayer justement de comprendre le chemin de chacun et d'essayer ensuite d'analyser ça pour pouvoir isoler des clusters de patients et dire voilà, eh ben chez la population française de Lombalgique, on a à peu près 5-6 groupe de patients relativement homogènes qui ont ça, 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 ça et ça. Et pour pouvoir ensuite fabriquer une appli, justement...
De coaching sur mesure.
Voilà,
hein, c'est ça.
En fonction en fait, du profil que vous aurez, on vous dira, bah, voilà, vous avez plutôt besoin de ça, de ça, de ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle et du big data. Et pourquoi on peut le faire? Parce que peut-être qu'on a une maladie, c'est peut-être pas la maladie la plus incroyable en physiopathologie, mais... Il y a énormément de patients. Donc, on va avoir énormément de data. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en a que 1600 inscrits.
Il va en falloir plus.
Il nous en faut 5000.
Donc, n'hésitez
pas. Donc, c'est un appel au peuple.
Allez, appel au peuple. Il est passé, en tout cas, sur Europe 1. Aline, on le sait, en vieillissant, ben, en général, le mal de dos, ça s'accentue. Mais la bonne nouvelle, c'est que même chez les seniors, vous l'expliquez dans le Figaro Santé, ce n'est pas une fatalité.
Non, alors évidemment, quand on prend de l'âge, le corps s'use. Hein, c'est une
réalité.
On
ne peut rien y faire, c'est comme ça.
On ne peut rien y faire. Hein. Alors, vous avez effectivement les articulations qui dysfonctionnent un peu, les muscles qui sont moins élastiques. Bon. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes condamné au mal de dos, pas du tout. Des conseils très simples. D'abord, faire attention à nos postures. C'est très bête, mais j'ai une maman qui a une cuisine avec des meubles qui ne sont pas du tout adaptés. Elle est obligée de se pencher, la pauvre. Elle a mal au dos. Mais si les meubles étaient correctement positionnés, elle aurait moins mal. Donc ça, c'est porter attention à votre environnement et essayer de faire attention à vos postures. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, on en a parlé et on en reparlera parce qu'elle est très importante. L'activité physique permet de garantir à la masse musculaire de ne pas trop céder, de ne pas trop fondre, même avec l'âge. Hein. Donc ça, c'est très important, parce que quand on est musclé, on a moins mal.
Alors, dans le Figaro Santé, professeur Ranoux, il y a un article consacré aux anti-inflammatoires qui sont très prescrits dans les problèmes de dos. Qu'est-ce que ça vaut réellement sur le long terme? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Est-ce que le risque n'est pas supérieur au bénéfice?
Il y a deux choses. Il y a les antalgiques, les anti-inflammatoires. Les antalgiques, c'est le paracétamol, avec ou acétaminophène, pour lesquels on peut ajouter des molécules. On sait ça, que ça ne marche pas. D'accord? Comme ça, c'est clair. Bon, l'effet taille, vous savez, l'effet taille, c'est ce qui fait qu'on a un vrai effet contre placebo. Il est d'une faiblesse, il n'est pas cliniquement pertinent. Les anti-inflammatoires, eux, clairement, dans le mal de dos aigu, ont un effet taille qui est tout à fait convenable. Après, le problème, c'est un problème d'effet secondaire et de comorbidité. Donc, bien évidemment,
Là, on parle des comprimés par la bouche ou anti-inflammatoires éventuellement
non,
sous d'autres formes.
Non, comprimés par la bouche, d'accord. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les anti-inflammatoires, on dit on peut les utiliser, mais la dose la plus faible possible, le moins longtemps possible, et adapter l'anti-inflammatoire qu'on utilise par rapport aux comorbidités du patient.
Et comment ils font ceux qui se gavent d'ibuprofène depuis des années? Là, c'est pas bon, il faut revoir les choses complètement à zéro
oui,
en général.
Oui, oui. Ça, c'est pas bon. On ne peut plus aujourd'hui, mais quelle que soit la maladie, vous savez, moi, je connais bien l'arthrose périphérique aussi, c'est fini ce temps-là où les gens prenaient un INS. Non. Néanmoins, je vous rappelle quand même qu'il y a une maladie qui n'est quand même pas anodine, qui est la spondylarthrite ankylosante. Le traitement, c'est INS à vie. Hein. Ouais. Et ils vivent relativement bien avec. Mais on est dans des maladies beaucoup plus graves. Et donc, la balance bénéfice-risque est bien meilleure dans ce cas-là.
Et parfois, on a besoin de passer aux corticoïdes. Est-ce que là, ça peut faire un effet supplémentaire ou pas?
Alors là, les corticoïdes, sauf dans des cas très particuliers, c'est uniquement par voie injectable, d'abord. Donc souvent, les patients ont un peu peur. Il y a très peu d'effets secondaires systémiques.
Sous cette forme-là, il n'y a pas de souci.
Non, et donc ce sont des infiltrations. Et des infiltrations, alors souvent on dit j'ai une infiltration dans le dos. Des infiltrations, il y en a 7 différentes dans le dos.
Ah
d'accord
oui.
Il y a 7 infiltrations différentes. Donc quand on en a une, c'est pas obligatoirement la bonne, ou au contraire, c'est la bonne. Après, ça, c'est un problème de spécialiste.
Et ça
c'est
marche là, très bien.
Et ça marche très bien. C'est un traitement symptomatique. Tout n'est que symptomatique. Hein. Tout.
Parfait, ne bougez pas tous les deux, on va se retrouver dans un instant.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient très vite et on va poursuivre cet éclairage cet après-midi sur le mal de dos en partenariat avec le Figaro Santé. On va vous donner encore de nombreux conseils, notamment comment réagir quand la crise de mal de dos survient, que faire en cas de sciatique, comment éviter la récidive. On y revient très vite, restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et nos deux invités pour ce dossier du jour consacré au mal de dos sont toujours avec nous en studio. Vous d'abord, Aline Richard, rédactrice en chef du Figaro Santé, et avec nous aussi sur ce plateau, le professeur François Ranoux. Je rappelle que vous êtes rhumatologue et chef de service à l'hôpital Cochin à Paris. Aline, on va revenir sur la crise aiguë, le lumbago brutal, le torticolis, la crise de sciatique, là qui nous prend tout d'un coup. Je crois d'ailleurs qu'au moment où on parle, là, dans cette émission, on peut avoir une idée à peu près de combien de nos auditeurs vivent ça en ce moment-là.
Alors ça, je n'irai pas jusqu'à là. En fait, une douleur, c'est un signal d'alerte du corps, n'est-ce pas? Et ce signal d'alerte, il peut être donc divers et il peut avoir des causes parfois très graves. Vous ne le savez pas, vous avez mal. Donc je pense qu'il faut proposer aux auditeurs qui ont mal au dos, quand on a une douleur violente, eh ben, il faut consulter parce que ça peut être une douleur liée à l'arthrose, on en a parlé, mais ça peut être aussi, je sais pas, une fracture, un problème cardiovasculaire, voire un cancer. Donc il faut surveiller ça.
Et justement, professeur, avant de consulter, je vois souvent des patients qui ont tenté des petits trucs. La ceinture lombaire, mettre du chaud, mettre du froid. Est-ce qu'on sait si ça peut aider ou si finalement...
Ces petites choses, quoi.
Ces ouais. petites choses du quotidien ne servent pas à grand-chose.
Clairement, oui. Clairement, oui. C'est clair. C'est comme je dis toujours, un traitement, donc ceinture lombaire, chaud, froid, qui n'a pas d'effet secondaire, où il n'y aura pas de lien financier important avec le patient, pas de gouroutisation, j'ai envie de dire, je dis allez-y à fond, au contraire.
Si ça vous fait du bien,
si
en
ça
plus,
vous fait du bien. Et au contraire, vous savez, aujourd'hui, la grande mode, c'est ce qu'on appelle... C'est américain, le self-management en médecine. C'est-à-dire, il faut que le patient se prenne en charge. Et bien ça, c'est typique. Et il se prend en charge avec ses retours. Lui, il voit, tiens, quand je fais ça, ça va mieux et tout. Après, il nous en parle et on lui dit oui, non. Ou...
Tant que ça fait pas de mal, il n'y a pas de souci. Alors, exactement. Admettons, je suis complètement bloqué là tout d'un coup, professeur Ranoux. Quel médicament je prends en premier chez moi? Je veux dire, avant de consulter, mais d'ailleurs, elle le disait, Aline, c'est vrai, il faut systématiquement consulter. Bon, ça m'est arrivé d'avoir 3 jours mal au dos, mais d'aller pas aller voir le docteur, quoi. Hein.
Alors, c'est toute l'ambiguïté, justement, de la prise en charge du lumbago. C'est que le lumbago, qu'on fasse quelque chose ou pas, en 2 jours, c'est fini.
Ah, donc, c'est un peu comme le rhume en 8 jours.
Je vais vous donner un exemple.
Avec ou sans médicaments, ça passe.
Je peux vous démontrer que si je vous achète une Ferrari, je vous guéris d'un lumbago.
Mais je veux bien que vous me l'achetiez.
Vous faites un lumbago, je vous achète une Ferrari, 2 jours après, vous n'avez plus mal.
Ah ouais.
Pourquoi?
Parce que
c'est l'histoire naturelle. C'est l'histoire naturelle du lumbago, c'est tout. Ouais. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il y a une différence entre le premier lumbago, où là, les patients ne... Ils ne comprennent pas. Et là, il faut aller voir quelqu'un. Et il faut absolument consulter un médecin ou le kinésithérapeute. Et puis, des gens qui connaissent leur dos.
Ouais,
et ils savent ce qu'il faut faire. Alors, il y en a chez qui ils vont prendre un anti-inflammatoire immédiatement. D'autres, ils vont mettre leur ceinture. Après, ça va être en fonction des patients et en fonction de l'origine plus ou moins mécanique ou inflammatoire de la douleur.
Alors, professeur, on a beaucoup parlé de l'activité physique. Ça faisait partie du traitement à part entière du mal de dos. Mais est-ce qu'il y aurait certains sports à privilégier? On parle souvent de la natation. Les gens, ça les saoule, ils n'ont pas envie de nager. De
toute façon, elles sont fermées, les piscines.
Mais bon.
J'avais inventé ce slogan il y a une quinzaine d'années. Le meilleur sport, c'est celui que vous avez envie de faire. J'ai vu que maintenant, il est repris partout et tout, et j'en suis très heureux. C'est dommage, j'aurais dû le déposer en copyright. Donc ça, c'est la première chose. Après, dans les sports, s'il n'y a pas de volonté de faire du sport, la natation, très bien. Sauf que quand vous êtes face à quelqu'un de sédentaire qui n'a pas envie de faire de sport, il va vous dire... j'ai pas de maillot de bain, j'ai pas envie de me baigner, j'ai trop froid, la piscine est fermée, je sais pas nager.
Voilà.
C'est pour ça que faites le sport que vous avez envie. Et souvent,
pour que ce soit durable en fait.
Mais
aussi,
exactement.
C'est ça,
ouais. Et parfois, je les choque en leur donnant des noms de sport.
Genre quoi,
qui
par
leur
exemple
serait... Je leur dis de l'escalade, du golf. Ils me disent, mais non, le golf, c'est trop... Je dis, non,
c'est bien.
Maintenant, vous savez, c'est vachement démocratisé. Mmh. Ah bon, vous croyez et tout. Quoi, il faut trouver une...
Parce que le but, c'est que ce soit durable, on vient de le dire.
Mais
il faut, pour que ce soit efficace, pour qu'il y ait un effet sur le moins de récidive de l'umbago, etc., il faut faire combien de séances? Je sais pas, il faut au moins plusieurs
après,
par semaine, j'imagine.
Comme toujours, il y a les définitions. Et puis, y a
la recommandation, c'est quoi?
Les recos, mais déjà, si on arrive à faire une ou deux fois du sport par semaine, c'est pas mal. Mmh. Et l'autre sport, le grand sport, c'est le vélo. Pour le dos, parce que ça ouvre, et là on le sait.
J'aurais pas dit, on est un peu courbé sur un vélo.
Ça ouvre le canal, notamment dans les canaux lombaires rétrécis, qui est le grand problème des personnes âgées, qui ont le canal qui se resserre sur les nerfs, ça fait des espèces de sciatiques douloureuses. Et ben, le vélo, c'est probablement quelque chose de très intéressant.
Alors justement, Aline Richard, on va parler un petit peu de sciatique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on ressent quand on souffre d'une sciatique? Et d'ailleurs, ça fait vraiment très mal. Les patients qu'on peut voir souffrent terriblement, alors que dit comme ça, une sciatique, c'est pas très impressionnant.
Oui, c'est pas très impressionnant, mais je vous conseille pas d'en avoir une. Ça fait vraiment très très mal. Donc, vous savez, c'est une douleur qui est à l'arrière de la jambe,
La fesse au talon. Moi,
voilà,
j'ai goûté déjà.
qui remonte. Donc, ça fait vraiment vraiment, c'est extrêmement douloureux.
Mais ce qu'on observe, c'est que quand on souffre d'une sciatique, on a l'impression que ça revient un peu plus fréquemment. Est-ce que ça aussi, c'est une idée reçue? Est-ce qu'on peut avoir des récidives de sciatique et un truc qui traîne ou qui revient?
Alors, comment on évite la récidive? Alors, la première, c'est la hernie qui disparaît toute seule. Il y a quand même dire entre 30 et 50% des hernies qui de toute façon disparaissent toutes seules. Donc ça tombe mieux dans l'année. Et puis sinon, il faut avoir, c'est une articulation, le disque. Et quand on a l'articulation qui est un peu malade, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme le genou, c'est comme la hanche, c'est comme le coude, comme l'épaule. Il faut avoir des bons muscles et qui vont gainer ça, ce qu'on appelle le gainage. Le gainage, c'est excellent chez les gens qui ont des problèmes de hernie discale récidivante.
Aline Richard, pour terminer, on va peut-être donner quelques conseils pour ceux qui nous écoutent et qui sont en télétravail.
Ah oui,
voilà, pour pas souffrir du mal de dos. On sait qu'il y en a beaucoup, ils sont nombreux. On vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts?
Alors, plusieurs choses qui sont importantes à dire. D'abord, ce n'est pas parce que vous êtes assis que vous êtes condamné au mal de dos. Ça, c'est une belle idée reçue. Il n'y a pas non plus de position idéale. Si je me tiens droite comme un nid, ça ne va pas fonctionner, pas particulièrement. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir une chaise qui coûte 3 bras et 3 dos.
Vous
voyez
pas
ce que je veux dire, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être confortable. C'est être confortable, pouvoir poser ses avant-bras. Alors que ce soit là je les pose sur la chaise, mais on peut le poser aussi sur le bureau. Il faut avoir un écran, si possible, qui est perpendiculaire à la fenêtre. C'est mieux pour la vision. Et puis, le haut de l'écran, il faut que les yeux soient un petit peu en dessous. Parce que, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a des problèmes de vision, c'est important que je ne sois pas obligée, vous voyez, de tendre
mon cou,
c'est pas terrible. Voilà, donc ça, c'est important. Être confortable, et puis surtout, on se lève régulièrement,
on va bouger, on
va boire un verre d'eau, et on téléphone en marchant. Parce que ça fait fonctionner
le meilleur traitement, encore une fois, c'est le mouvement. Professeur Ranou, vous validez tous ces conseils pour nos télétravailleurs?
Je valide tous les conseils.
Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier du mal de dos. Sur le mal de dos, pour ceux qui voudraient en savoir encore plus, je rappelle le numéro du Figaro Santé qui est en kiosque, une mine d'informations, au prix de seulement 6,90 €. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique bien chez soi. On va aller regarder quels soins vous apportez à votre literie. D'ailleurs, à quel rythme lavez-vous vos draps? Vous intéressez-vous à l'hygiène de votre matelas? Nous ferons le point avec le docteur Jimmy Mohamed. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé, bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h et nous sommes ravis d'être avec vous comme tous les jours. Alors à présent, on va passer à notre séquence du vendredi, bien chez soi. On va glisser dans votre lit avec Jimmy dans vos draps, en tout bien, tout honneur, bien sûr.
Calmez-vous.
Et donc, comment gérez-vous votre literie chez vous? À quel rythme, par exemple, lavez-vous vos draps? Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi, pour se débarrasser de quoi précisément, on recommande de laver le linge de lit à des températures assez élevées? Notre journaliste Valentin Piovesan a été vous interroger sur tous ces sujets. On écoute
bien sûr son micro-trottoir.
Pour tout ce qui est literie, effectivement, j'adore me sentir dans un nuage, donc c'est vraiment ce que je recherche. Je sais que je cherche beaucoup pour les oreillers, les plumes.
Je veux plus du tout les oreillers trop mous. Là, maintenant, je prends les trucs à mémoire de forme. Ils sont très bien pour la nuque.
Le critère, c'est coton. Surtout pas de tergal et de compagnie, non.
Bah, les oreillers, à partir du moment où on ressent plus le confort, faudrait peut-être les changer.
Je pense que ça dépend des personnes aussi, des personnes qui vont avoir tendance à avoir transpiré beaucoup pendant la nuit. Effectivement, l'oreiller a des taches qui vont se former, des choses comme ça. Donc là, faut pas hésiter effectivement à laver. Enfin, ça doit pas être très hygiénique.
Alors moi, j'aime bien les matelas bien durs, bien fermes. Donc du coup, je vais l'essayer au magasin.
Je sais que le matelas se retourne aussi, donc ça doit être peut-être 10 ans pour le matelas, quelque chose comme ça. Et puis les oreillers, peut-être tout changer tous les 2 ans et la couette un entre-deux, entre ces deux-là.
Alors Jimmy, pour bien nous mettre dans le thème, je signale quand même que c'est un sujet important, l'hygiène dans le lit. On y passe environ un tiers de notre vie et s'empêche des choses dans le lit. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais pour vous donner une idée, pendant la nuit, on élimine en moyenne 40 centilitres d'eau sous forme de sueur, soit environ 150 litres par an. C'est énorme, hein, vous avez vu, j'ai fait le compte, hein, Jimmy, pour vous. Alors, on va vous demander d'abord quelques conseils de ménagère, Jimmy, entre guillemets. Comment on choisit ses draps? Je ne sais pas si de ce côté-là, il y a un aspect santé qui finalement nous intéresse.
Alors, je ne sais pas vous, Mélanie, mais moi, j'aime les flanelles. Je sais que ça n'intéresse pas grand monde.
Si c'est doux, c'est bien.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les matières synthétiques sont à éviter de préférence puisqu'elles vont nous faire transpirer davantage. Alors, les fabricants de linge de lit utilisent de nombreuses substances chimiques pour répondre à des demandes comme des demandes anti-taches, anti-feu, anti-acarien ou encore antibactérien. Eh bien, moi, je vous donne simplement un repère. C'est le label Ecotex qui garantit que le fabricant n'a utilisé aucun produit chimique potentiellement dangereux pour votre santé et aussi pour l'environnement. Alors, évitez aussi les draps avec la mention repassage. Facile, ils sont souvent traités avec des produits nocifs pour votre santé.
Oh là là, vous en savez des choses, Jimmy. Alors, pour les personnes allergiques, est-ce que il y a des choses pour s'équiper un peu différentes, peut-être?
Alors, pour les personnes allergiques, on a tendance à essayer de trouver des linges de lit qui ont pu être traités contre les acariens. Mais là encore, c'est une idée reçue. Elles sont complètement déconseillées pour votre santé, donc attention.
D'accord. Alors, tous les combien de temps, ça c'est important et c'est très pratique, Jimmy, tous les combien de temps il faut changer sa literie? On a entendu dans le micro-trottoir qu'un matelas, c'est tous les 10 ans. La couette, par exemple, j'en sais rien, c'est tous les 2-3 ans. Non, c'est peut-être un peu.
C'est un peu plus, ouais. Hein, c'est plutôt 5. Voire même 7 ans, en fait, tout dépend de la qualité de votre couette. Plus elle est en coton et plus elle pourra respirer. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez la garder plus longtemps. En ce qui concerne votre dos et le matelas, eh bien là, c'est 10 ans maximum. Et certains signes ne trompent pas, vous faisant dire qu'il faut le changer, même si ça coûte de l'argent. Vous allez sentir les ressorts ou les lattes au niveau de votre sommier. Vous allez avoir l'impression d'avoir le dos qui s'allonge et qui devient de plus en plus creux. Ou bien alors, vous allez avoir des douleurs au réveil avec des courbatures.
Il faut changer, même si c'est coûteux. Alors ensuite, pour une bonne hygiène, Jimmy, comment justement on entretient sa literie? Vous lavez vos draps tous les combien? C'est pas vous qui le faites, c'est votre femme, non?
Déjà, le matelas, un petit coup d'aspirateur une fois par mois, ça suffit largement. Pour la couette, si on aère au moins quotidiennement, le lavage annuel peut être suffisant. Et en hiver, ce que je vous conseille, c'est de laver et de changer les têtes d'oreiller au moins chaque semaine et les draps 2 fois par mois à température élevée. Et en été, mieux vaut quand même opter pour un changement complet de son linge au moins chaque semaine.
Très bien. Il y a un instant, on évoquait la température de lavage. Jimmy, on a peu de temps, mais rapidement. On doit laver notre linge à quelle température et pourquoi? Pour tuer quoi, en fait?
Alors, pour éliminer les bactéries, la sueur, les peaux mortes, les acariens, c'est 60 degrés minimum. Et justement, ça tombe bien, la plupart de nos draps ne peuvent pas dépasser cette température.
Vous savez ça, vous avez lu les étiquettes. Hein.
Et surtout, pensez à bien les laver la première fois avant de les mettre dans votre lit. Ça permet d'éliminer certaines substances toxiques qui peuvent être présentes, notamment liées au processus de fabrication.
Très bien. Bah écoutez, Jimmy, je ne savais pas que vous en saviez autant sur la literie.
Moi non plus. Mais...
Je suis épatée. Merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours bien sûr. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, qui adore cette séquence. Catherine Blanc, qui arrive pour vous, Jimmy, presque, je dirais, puisque je sais que vous êtes très intéressée par toutes ces questions-là. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. On va terminer la semaine avec cette question de Jean-Marc. Jimmy, vous voulez bien nous la lire?
Oui, bien sûr. J'ai perdu ma femme il y a 4 ans et depuis, c'est très difficile pour moi de me reconstruire sentimentalement. Je m'occupe de mes enfants, mais je n'arrive pas à retrouver une compagne. Je ne trouve jamais une qui soit aussi bien que mon ex-femme. Est-ce que je pourrais retomber amoureux une seconde fois? Bon, Catherine, c'est une question assez difficile. Est-ce que peut-être il cherche à la fois une maman, une amie et une épouse et du coup... Bah, retrouver la même personne que celle qu'il a pu perdre, eh bien, c'est quasiment mission impossible.
Oui, et sans doute était-elle merveilleuse, mais sans doute c'est aussi une idéalisation post-mortem, c'est-à-dire c'est difficile à 47
ans.
Voilà, ouais. Mais c'était il y a déjà 4 ans, donc c'est
devenir veuf à 43 ans,
se retrouver,
toujours,
voilà,
c'est dur, mais
c'est dur, se retrouver avec des enfants, on a construit une cellule familiale, donc avec tout ce que ça représentait de sécurité, d'être à deux, et puis avec un devoir de loyauté, puisque les enfants sont au milieu, on s'occupe des enfants, c'est-à-dire qu'il y a et le devoir de loyauté vis-à-vis de la défunte et dans les yeux des enfants. Parce que ce n'est pas la même chose une épouse qui s'en va et qui est partie avec un autre homme, etc., d'une épouse qui est morte et qui, du coup, il y a des enfants qui n'ont une maman qu'une maman et un papa qui, tout d'un coup, se mettrait à roucouler avec une autre. Il y a le regard des enfants qui impose la loyauté à l'égard de la défunte.
Mais ça fait 4 ans quand même, vous le disiez, vous le releviez à l'instant. Pourquoi, au bout de 4 ans, il compare encore, je ne dis pas que ce soit facile, hein, mais il compare encore les femmes qu'il rencontre à son ex-femme, enfin pas son ex-femme, sa femme décédée. C'est fréquent comme ça de vouloir absolument comparer?
Bien sûr, parce que ce n'est pas comme quand on a 18 ans, qu'on rencontre quelqu'un dont on ne connaît strictement rien, sur lequel on projette plein de possibles.
Puis là, c'est une séparation qu'on n'a pas choisie, donc là, c'est pour ça qu'il est resté sur sa fin, clairement.
Bien sûr,
quoi,
hein, c'est en plein amour, en plein combat contre la mort si c'est par maladie, ou en surprise.
Plein d'éducation des enfants.
Voilà, et vraiment, et puis quand on voit ses enfants grandir, on ne peut s'empêcher d'y voir la tête de l'autre, d'y voir les mimiques de l'autre. Et puis d'ailleurs, les enfants eux-mêmes, alors il peut y avoir un grand silence, mais sinon on parle de la défunte, donc c'est extrêmement difficile de quand en plus on est plus mature, quand on rencontre des gens, on les rencontre sans naïveté, donc on voit les qualités, on voit les défauts, donc on peut tout de suite évaluer les défauts de toutes les personnes que l'on rencontre, alors que celle avec laquelle on a grandi et fabriqué une famille, on a omis les défauts puisqu'on a grandi ensemble, on s'est épanoui ensemble, alors que quelqu'un de déjà abouti, on a l'impression que justement le chemin à faire ensemble, les ponts à trouver entre nous sont des ponts compliqués, avec en plus quelqu'un qui doit accueillir des enfants qui ne sont pas d'elle et dont la maman est morte et n'est pas en train d'être
compliqué
heureuse ailleurs.
Situation,
bien sûr,
hein,
c'est extrêmement compliqué.
Ouais, on comprend bien que l'équation est vraiment difficile à résoudre, d'autant plus que vous avez dit qu'il y a un sentiment de culpabilité, presque de trahison, si jamais il se mettait avec quelqu'un d'autre. Mais du coup, est-ce qu'il doit en parler aux enfants s'ils sont en âge de comprendre, en disant qu'il souhaite refaire sa vie? Ou est-ce qu'on ne doit pas mêler les enfants à ce genre de décision?
Alors, c'est pas aux enfants d'arbitrer que papa, on lui autorise ou non à avoir une nouvelle amoureuse. Par contre, c'est aider les enfants à se donner la liberté d'aller aimer le monde, d'aller rencontrer des gens.
Et de s'attacher à l'autre
et
aussi.
Et de s'attacher à d'autres, que ce soit, mais d'autres en général. Parce que la vie, elle est belle. Parce que si le chemin de vie d'une maman s'arrêtait là, ça ne fait pas pour autant l'interdit pour les autres de poursuivre leur vie. Donc, faisant comprendre aux enfants tout ce qu'ils ont à construire, ils aimeront des petits copains, des petites copines, ils auront des tas, ils vont rencontrer des gens qui seront formidables et qui joueront des rôles primordiaux, des profs, qui donneront le goût d'une matière ou d'une autre, etc. C'est aider les enfants eux-mêmes à se libérer d'un devoir de fidélité pour pouvoir faire entendre aussi que le père a à faire ce même cheminement. Mais ce n'est pas à leur demander l'autorisation d'avoir une amoureuse.
Dernière question, Catherine. Il demande si on peut tomber amoureux une seconde fois. Je crois que la réponse, là, je peux vous la donner, c'est oui, hein, évidemment, évidemment.
Bien sûr, parce qu'encore une fois, on a toujours cette idée assez romantique d'une seule et unique personne qui était faite pour nous. En fait, celle qui est faite pour nous, c'est celle avec qui nous construisons. Mais donc, il n'est que question de construire et de se permettre de construire avec quelqu'un, de voir justement autrement plutôt que de chercher la même, parce que tant que je cherche la même, je ne la trouverai pas. C'est m'autoriser.
Il arrivera à avancer quand il arrêtera de faire ça, hein,
voilà, il a aimé une femme qui avait une couleur et il faut que cette femme qui a cette couleur reste cette femme à cette couleur et qu'il cherche une autre couleur, comme ça il n'y a plus de comparatif. Il y a juste une occasion merveilleuse à un âge différent, avec une maturité différente, avec des expériences de vie ô combien structurantes, même si elles sont douloureuses, pour pouvoir construire autre chose d'une toute autre couleur.
Et dessiner un autre tableau, hein, c'est ça.
Exactement.
Vous avez vu comme c'est beau, Jimmy, ce que je viens de dire pour terminer.
Magnifique.
Très bien.
Je l'ai vu un peu comme une caricature.
Oui,
mais
c'est
pas grave.
C'est vous copier, Jimmy. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Jimmy, pour tous vos précieux conseils. Comme toujours, on vous retrouve tous les deux et on se retrouve tous ensemble la semaine prochaine.
Sans rendez-vous sur Europe 1.